C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
J'aborde souvent la question du temps d'écran chez les jeunes ces jours-ci. En chronique à la presse, ici à ce micro, c'est un sujet qui suscite de plus en plus de réflexions, d'interrogations, de craintes aussi. Pourquoi, vous et moi, les adultes, si on manipule des écrans, on passe du temps en ligne, ça peut avoir des effets, c'est vrai, mais il y a de plus en plus de chercheurs qui se posent la question, quel effet ça a pour des enfants, moins de 18 ans, on est des enfants, de passer beaucoup, beaucoup de leur vie dans les réseaux sociaux, dans les écrans, alors que leurs cerveaux sont en formation. Et j'ai raconté l'anecdote là d'un de mes amis qui est père de deux enfants, qui avait une conversation avec la mère de ses enfants sur la difficulté, justement, à mettre des limites, sur le temps d'écran, parce que quand vous le faites, ben vous êtes un des seuls parents qui est en train de le faire, et vos enfants se rebellent. Et là, il y a des gens qui m'écrivent, je suis comme une policière, comme mère, à toujours vérifier, à faire la négociatrice avec mes enfants. Je trouve ça difficile. Il me trouve trop exigeante. Quelqu'un d'autre qui m'écrit pour me dire c'est la guerre avec les enfants à la maison pour policer comme ça le temps d'écran. Quelqu'un m'écrit je n'aurais jamais cru avoir cette conversation car mon garçon n'est âgé que de 7 ans et hier soir il m'a demandé à avoir un cellulaire. Ses amis en ont. Une autre personne qui m'écrit de l'aveu de ma fille de 12 ans, nous sommes les seuls parents à limiter le temps d'écran. Comment on peut réussir ce combat du contrôle des temps d'écran si 9 parents sur 10 laissent sans encadrement leurs enfants sur Internet? C'est une cause de santé publique, justement, au bout du fil, Dr. Mélissa Généreux, médecin conseil, est une spécialiste de la santé publique. Elle est rattachée à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Dr. Généreux, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qu'on sait sur l'impact que les réseaux sociaux et les écrans, là, c'est à peu près la même chose, peuvent avoir sur des cerveaux en développement?
En fait, c'est de plus en plus documenté, vous l'avez bien dit. Puis moi, ce qui a frappé mon attention, c'est que oui, des chercheurs le documentent, mais c'est rendu qu'on a des sociétés savantes, des grandes organisations de santé publique comme le General Surgeon aux États-Unis en mai 2023, je crois, qui ont émis des grandes réserves sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Et c'est vraiment par deux voies. Il y a le mécanisme du temps d'écran. Donc, plus on est exposé, plus ça peut occasionner par différents mécanismes là, un impact sur le bien-être, mais il y a aussi l'exposition à du contenu malsain qui, lui, peut être lié à la quantité de temps ou juste par malchance de tomber sur une mauvaise conversation, du mauvais contenu. Donc, les mécanismes sont multiples, mais chose certaine, tout le monde de plus en plus met de l'avant qu'on doit se poser plus de questions par rapport à ces impacts-là négatifs.
Est-ce que ça revient souvent dans vos constats sur le terrain, la difficulté que les parents ont à négocier avec leurs enfants pour le temps d'écran?
Ben, c'est pas dit expressément comme ça, mais on vient de faire, par exemple, un sondage auprès de 14 000 parents un peu partout au Québec. Puis on leur demandait leurs préoccupations sur l'argent, sur la réussite scolaire de leur enfant, plein de choses, leur santé psychologique. Et c'est vraiment le temps d'écran qui revenait. Donc oui, indirectement, les parents, si leur préoccupation numéro un est le temps d'écran, on peut penser que c'est parce qu'entre autres, ils voient bien, et je suis bien placée aussi pour en parler, là, moi-même étant parent, de voir à quel point ça fait partie, c'est un des environnements. Maintenant, l'environnement numérique fait partie d'un des environnements importants de nos jeunes. Ils ont comme une vie un peu parallèle là-dessus. Et nous aussi, d'ailleurs, il faut le mentionner. Mm-hmm. Donc, comment on gère tout ça, ça devient assez compliqué. Il n'y a pas de guide d'emploi là, qui vient pour les parents en ce moment à ce sujet-là.
Docteur Généreux, vous avez mené avec votre équipe de santé publique de l'Université de Sherbrooke des sondages à grande échelle. On parle de milliers de jeunes qui ont répondu sur quelques années. Et en 2023, en décortiquant les données, vous avez fait le constat qu'il y a peut-être un lien entre le temps passé, le nombre d'heures passées chaque jour dans les écrans, sur les réseaux sociaux, et certains paramètres de santé mentale.
Oui, tout à fait. Ça, c'était sans équivoque. Bon, lequel cause lequel, ça, l'histoire le dit pas. Ça peut aller dans les deux sens, mais chose certaine, les jeunes qui passent plusieurs heures par jour devant leur écran, et tout particulièrement sur les réseaux sociaux, sont aussi des jeunes qui sont deux fois plus enclins à rapporter des troubles, en fait, des symptômes qui sont compatibles avec un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Donc, il y a vraiment, là, ça passe du tout double. Mais encore une fois, est-ce que les jeunes aussi qui ont d'abord peut-être un peu plus une tendance anxieuse vont plus facilement se réfugier derrière l'écran, derrière les réseaux sociaux parce que c'est moins anxiogène ou ça peut avoir l'air moins anxiogène à première vue d'aller socialiser en ligne plutôt qu'en personne. Donc ça, le lien peut aller dans les deux sens.
Est-ce que la science est claire? Est-ce qu'elle, tu sais, par exemple, je vais prendre un exemple. Le tabac, on sait que le tabagisme va causer de plus grands nombres de cancers du poumon, par exemple. On le sait que c'est lié. Est-ce qu'on sait si l'utilisation très jeune du téléphone, des réseaux sociaux, va mener à des troubles d'anxiété? Est-ce que c'est aussi clair?
Non, c'est pas aussi clair. C'est, ben, premièrement, les réseaux sociaux, c'est tellement quelque chose d'évolutif. T'sais. On a juste à plonger il y a peut-être 10 ans, 15 ans, on n'avait pas autant de plateformes qu'on a aujourd'hui. Puis les plateformes deviennent de plus en plus agiles avec leur stratégie de fidélisation. Donc, la multiplicité de toutes les plateformes, de toutes ces stratégies-là font en sorte que ça... Et, ben, je pense aussi que le contexte veut pas de la pandémie qui est venue accélérer le tout, la pression sociale, le fait que ça devient de plus en plus une norme que... Tu sais, je donne souvent l'exemple au restaurant, là, il y a 5-10 ans, on commandait pas en ouvrant notre cellulaire puis en scannant le menu. Là, on se parlait, on regardait un bon vieux papier puis on avait une discussion puis on n'était pas tenté d'aller sur l'écran. Donc, le monde évolue tellement vite que moi, ce que je trouve difficile avec la littérature scientifique, c'est de se fier sur les études. Tu sais, une étude qui paraît aujourd'hui en 2024, c'est souvent avec des données qui ont été collectées en 2021, peut-être 2022, puis là, le temps qu'on analyse ça, qu'on écrive l'article, qu'on le soumette, qu'on le révise, qu'on le publie, il y a toujours un délai de 2-3 ans. Donc, moi, je pense que, et je suis pas toute seule à le penser, plusieurs organismes pensent que ça va trop vite et qu'on a déjà suffisamment d'évidence pour dire que la prudence est de mise.
Donc, si je résume, on n'a pas de preuve que c'est la cause des problèmes de santé mentale chez les jeunes qui sont en explosion, troubles d'anxiété, troubles dépressifs, etc. Mais on n'a pas de preuve que c'est pas ça non plus.
Ben, on n'a pas de preuve. Au niveau des mécanismes, au niveau du cerveau, par exemple, la surstimulation du circuit de la récompense, là, tu sais, dans le cerveau, quand on est exposé à quelque chose, puis que là, ça nous génère un sentiment positif, une sensation agréable, ben, ça redonne le goût de réêtre exposé à ça. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Ça, la surstimulation, c'est vraiment de plus en plus clair et net que ça a lieu. L'exposition du contenu malsain, l'image corporelle, la comparaison à l'autre, ça, c'est des phénomènes vraiment bien reconnus là, au niveau de la psychologie. Puis ceci dit, il y a plein de choses aussi positives qui peuvent venir avec les réseaux sociaux. Là. Je ne veux pas juste les diaboliser, mais est-ce qu'on a des, comment je peux dire, une quantification comme la cigarette va augmenter de X nombre de fois le risque de cancer? On est pas dans, c'est plus complexe que ça, là, je dirais.
Il y a des questions à se poser par ailleurs sur l'utilisation de la technologie dans les écoles. On en a parlé, vous et moi, pour ma chronique de dimanche dans la presse. Là, dans les écoles, on a embrassé les iPads, le Wi-Fi, le tout au numérique. On arrête de prendre des notes à l'écrit, etc. Mmh. Et on a fait ça sans trop se poser de questions. Pas juste au Québec, mais ailleurs aussi. Vous m'avez raconté une anecdote fantastique. Et j'aimerais ça que vous la racontiez aux gens qui nous écoutent. Vous avez visité une école un jour qui était justement toute numérique. Racontez ce qu'on vous a dit à propos de vous avez posé la question, est-ce que vous savez s'ils sont vraiment en train de vous écouter ou s'ils sont pas sur Facebook?
Ben c'est ça, c'est qu'on était très fiers de montrer dans cette école-là, ben puis c'est correct, là, à l'époque, je pensais sincère, mais de dire, on est tellement high-tech, on est passé au numérique, donc nous, nos étudiants, il n'y a plus de papier, il n'y a plus de crayon, tout se fait en ligne, donc ils ont tous un iPad ou un portable, puis les exercices de mathématiques, par exemple, ils le font en ligne, puis avec le temps de réponse pour chaque question, on va savoir à quel point ils maîtrisent ou pas la matière, puis je dis, ben c'est super intéressant, mais comment vous allez faire pour savoir s'ils sont vraiment en ligne à faire ça versus aller sur les réseaux sociaux, par exemple, ben, c'est facile. Moi, j'enseigne pas par en avant, j'enseigne en arrière de la classe. Moi, ce que je regarde, c'est l'écran des élèves. J'ai dit, ouais, c'était cute dans le sens, je pense que c'était sincère, c'était une fierté, mais moi, c'est là que je me suis dit, ouais, on n'a pas encore peut-être toutes les données, mais il me semble, ou je suis peut-être un peu vieux jeu, mais que le relationnel, le développement des compétences de regarder quelqu'un dans les yeux, de lire le non-verbal, d'avoir une communication dans le monde réel, c'est quand même assez important, puis c'est quelque chose qui s'acquiert justement pendant l'enfance, l'adolescence, donc... Ça m'apparaissait important de pas laisser quand même tout ça de côté pour tous les mérites que la technologie peut quand même aussi avoir de son côté.
Évidemment, et cette anecdote-là, docteur Généreux, je l'ai pas vue comme si vous lanciez la pierre à cette prof-là ou à cette école-là, mais plutôt que dans le milieu scolaire, ici comme ailleurs, on est allé à l'ava comme je te pousse, là. On a improvisé en pensant que la technologie, c'était forcément bon.
Ben oui, pense que c'est correct aussi. Ça a été vraiment présenté, c'est la révolution numérique, puis c'est bien correct. Là, en fait, je pense qu'on est tous un peu tombés dans le piège. C'est pas juste un piège. Je pense quand même que notre société a beaucoup évolué. Mais ceci étant dit, ça m'apparaît aussi très sage aujourd'hui avec les nouveaux constats qu'on a. On voit que la santé mentale des jeunes est quand même source de préoccupation pour plusieurs. On est en droit de se demander qu'est-ce qui a tant changé, puis veut pas. La pandémie, elle peut pas avoir le dos si large que ça. Il y a quelque chose qui était déjà présent avant. Et ce qui nous apparaît le plus clair, c'est la place du numérique. La perte des aptitudes sociales, l'isolement, la solitude, donc plusieurs facteurs qui semblent toujours tourner autour de l'écran qui est venu prendre le précieux temps qu'on avait jadis à développer toutes sortes d'autres habiletés puis à se développer seulement comme adolescent.
Le sujet est absolument inépuisable. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
À la prochaine. C'était Dr. Mélissa Généreux, spécialiste en santé publique rattachée à l'Université de Sherbrooke.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Jour 179 de la guerre entre Israël et le Hamas, et il y a quelques semaines, l'ONU a affirmé qu'on faisait face à une crise humanitaire sans précédent là-bas, dans la bande de Gaza. Les pourparlers pour un cessez-le-feu n'aboutissent pas. Quelle est la situation sur place? On parle avec Caroline Harvey-Blouin, infirmière clinicienne québécoise qui travaille pour Médecins sans frontières. On la joint à Rafah. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. D'abord, peut-être nous raconter ce que vous avez vu sur place, que vous avez constaté depuis les deux semaines où vous êtes arrivé à Gaza.
Mais c'est sûr que la situation est telle qu'on décrit dans les médias, là, c'est catastrophique. On rentre dans Rafah, c'est des tentes à l'infini, les gens sont entassés les uns sur les autres. Des écoles, on parle jusqu'à 30 000 personnes dans une école parfois, ça varie tout dépendant de la grandeur de l'école. Malgré tout, les gens réussissent à fonctionner, mais c'est plus le changement de contexte qui constamment incertain. Les gens bougent constamment. Juste dans les derniers jours, on a vu un mouvement de population de Rafah vers la côte. Rafah, c'est toute la partie sud de Gaza. Donc, il y a une partie qui est considérée un peu plus sécuritaire, qui s'appelle Al-Mawasi, qui est un peu plus sur la côte. Donc, déjà dans les deux derniers jours, avec les rumeurs d'incursion à Rafah, on voit vraiment déjà un gros mouvement de population qui se fait.
Mais il n'y a pas eu, pour l'instant, d'incursion de l'armée israélienne dans la région de Rafah.
Non, il y a des bombes à tous les jours, là. C'est sans arrêt. Mais à Rafah, non, ça reste quand même calme. C'est plus la région qui est à côté, qui s'appelle Khan Younis, qui est constamment là, encore bombardée tous les jours. Là.
Caroline Harvey-Blouin, vous avez travaillé dans des endroits pas faciles. Bangladesh, Congo, Éthiopie, Cameroun, Soudan du Sud, toujours pour Médecins sans frontières depuis 10 ans. La situation telle que vous la constatez à Gaza, est-ce qu'on part comment avec les autres l'endroit où vous avez été déployé pour Médecins sans frontières?
Je pense que c'est difficilement comparable. On parle d'un contexte qui, il y a 6 mois, était complètement différent. Les gens avaient une bonne qualité de vie. On parle d'un pays qui était développé. Présentement, tout le monde est à la rue. Tout le monde a tout perdu. On parle de personnes qui étaient aisées, qui sont maintenant dans des tentes en toile. C'est surtout la rapidité de la chose, qui est la magnitude de la chose qui est surprenante, qui est ahurissante. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se passe en ce moment ici. Moi, j'ai pas vu rien de tel dans d'autres contextes.
On dit qu'il y a beaucoup de Gazaouis qui souffrent de malnutrition. On a tous vu ces images d'enfants qui étaient à l'article de la mort, qui étaient rendus squelettiques. Qu'est-ce que vous constatez à Rafah en termes de besoins sanitaires, humanitaires?
Mais c'est sûr qu'à Rafah, c'est ici qu'il y a le plus d'acteurs humanitaires. C'est ici que le système continue quand même de fonctionner. Il y a des hôpitaux qui continuent à fonctionner. Rafah, qui est une région un peu plus touristique, un peu plus agricole, il y a encore de la nourriture sur le marché, malgré que les prix ont, c'est 7 fois le prix que ça coûtait avant. Mais ça fonctionne quand même un peu. Puis nous, on commence à avoir de la malnutrition qui augmente. C'est surtout la partie nord là qu'on n'a pas du tout de visibilité sur ce qui se passe, qu'il n'y a aucun accès de possible, où il y a peu ou pas d'acteurs en ce moment là-bas qui sont capables d'aller là-bas. Fait que nous, on voit seulement la partie sud qui est la moins pire, mais on voit quand même une augmentation de la malnutrition depuis les derniers mois. C'est sans compter aussi, tu sais, on parle du prix de la nourriture, mais aussi de toutes les mineurs non accompagnés qui sont estimés à environ 17 000, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de moyens financiers. On s'enligne vers une famine.
Là. Vous parlez de 17 000 orphelins. Comment ces enfants-là se débrouillent? Comment ils passent à travers les journées? Comment ils survivent?
difficile à dire. Nous, on n'est pas un acteur de protection, mais c'est les plus vieux de la famille qui s'en occupent, les voisins, j'imagine. Nous, on en voit beaucoup là, des enfants dans la rue qui fouillent dans les poubelles, mais malheureusement, c'est ça, il n'y a pas assez d'acteurs pour prendre en charge ces enfants-là. C'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble aussi sur ce qui se passe, parce que c'est tellement grand, puis il y a tellement de problèmes que c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Il y a encore un contexte qui est en constant mouvement. Les gens sont partis de Gaza, se sont relocalisés dans le Middle Area, se sont relocalisés à nouveau dans le Khan Younis. Là, maintenant, ils sont à Rafah. Là, ils s'en vont plus vers la côte. Donc, c'est difficile aussi d'avoir une vue d'ensemble.
Caroline, vous êtes infirmière. À quoi ressemblent vos journées depuis les deux semaines où vous êtes à Gaza?
Ici, je suis un titre de coordinatrice médicale des opérations. Donc, on a une équipe médicale qui est quand même assez restreinte. On a du personnel médical qui est incroyable, qui est super bien formé. Donc, ça facilite beaucoup, beaucoup la tâche sur le terrain. C'est difficile à décrire. On fait tellement de choses en même temps que c'est difficile à dire qu'est-ce qu'on fait dans une journée. Mais on travaille avec toute cette clientèle-là au jour à jour. Dans une clinique, on peut avoir facilement 3 à 4 000 consultations par semaine. On supporte des activités de maternité où on parle de 60 accouchements par jour. Là. Parce que là, on se ramasse avec très, très peu d'hôpitaux qui sont fonctionnels. Donc, tous les hôpitaux, ça serait comme si tous les hôpitaux universitaires, on les fermait, puis on se retrouve avec une grande population dans un état de région. Donc, tous les hôpitaux sont complètement débordés, le personnel est épuisé, mais c'est frappant la résilience puis la force que ces personnes ont.
J'allais vous poser la question, qu'est-ce qui vous frappe chez les gens que vous soignez?
La résilience de la population au complet. Est-ce qu'il y a une différence? Tout le monde est dans la même situation. Tout le monde a perdu des proches. Tout le monde a perdu tous leurs souvenirs. Mais la vie continue à rouler malgré tout, ce qui est impressionnant. Par contre, si vraiment il y a une incursion dans Rafah, ce qui risque d'arriver, la situation est déjà catastrophique. Mais s'il y a vraiment une incursion dans Rafah, on parle de 1,3 million de personnes qui vont se retrouver dans un minuscule territoire avec aucun service hospitalier. Là, c'est vraiment catastrophique.
Vous m'avez beaucoup parlé des gens que vous avez côtoyés là-bas. Vous parlez de leur résilience. Vous n'êtes pas sans savoir, Caroline Harvey-Blouin, que lundi, il y a 7 travailleurs humanitaires d'un organisme qui s'appelle World Central Kitchen qui étaient en train de livrer de la nourriture à Gaza et qui ont été ciblés, Israël dit, de façon non intentionnelle par un missile. Et il y a eu 7 morts. Comment vous avez réagi en prenant connaissance de cette nouvelle?
Mais c'est sûr que c'est un choc. Je pense pour tout le monde, on s'est réveillé ce matin, c'était la première nouvelle qu'on a reçue. Je pense qu'on s'accroche tous un peu au protocole de sécurité que chaque organisme a. On espère que ça nous arrivera pas. Il faut continuer ce qu'on fait ici. Il faut continuer à aider la population. Mais c'est clairement un choc. Présentement, je pense que c'est encore en investigation à savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de détails, je pense qu'on n'a pas encore. Mais c'est sûr que c'est inquiétant.
Caroline, vous pourriez pratiquer, disons, dans une sécurité pas mal plus grande au Québec. Qu'est-ce qui vous pousse comme ça à aller dans des points chauds de la planète pour Médecins sans frontières?
Une bonne question. Je ne sais pas. Non, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans. J'aime ce travail-là. J'ai même pas hésité quand on m'a posé la question à dire oui. Je me sens privilégiée de pouvoir venir ici, de pouvoir venir donner, c'est un grain de sable hein, ce qu'on fait comparativement à tous les besoins qu'il y a ici, mais c'est énorme ce qui se passe, puis je suis très heureuse d'être ici.
Faites attention à vous, merci pour ce témoignage, Caroline, je vous souhaite une bonne soirée là-bas.
Merci beaucoup, bonne journée.
À la prochaine, c'était Caroline Harvey-Blouin, c'est une infirmière clinicienne québécoise, on l'a rejointe à Rafah, dans la bande de Gaza, et travaille pour Médecins sans frontières.
Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré.
Et je te présente Patrick Lagacé, animateur de radio hors pair à Montréal. Et derrière le micro, il y a une autre facette. Le gangsta qui règne sur la cité. Quand il débarque au studio, ça fout le feu. Les mics trompent devant sa voix de feu. Avec ses mots tranchants.
Enfin, une chanson en mon honneur. Je savais, Jean-Philippe Barry-Guerrard, que t'allais nous présenter une pièce musicale. Je sais que c'est pas ça. Je me doute où tu t'en vas, mais explique aux gens de quoi tu veux nous parler.
Alors, la génération de musique par intelligence artificielle, c'était pas au point depuis quelques années. Moi, je suis quand même ça depuis un certain temps. On n'était pas là où on est avec ChatGPT, avec DALL-E pour l'illustration. Puis là, il y a eu un genre de coup de tonnerre le 21 mars dernier parce que la compagnie américaine Suno AI a lancé la nouvelle version de son algorithme. Et c'est un algorithme de génération de musique. Ça a donné cette chanson-là. C'est incroyable ce qui arrive à
donc,
faire.
Donc, t'as demandé à cette application de faire une chanson avec mon nom, mettons.
Une phrase, une chanson de gangster rap en français sur l'animateur de radio à Montréal, Patrick Lagacé, ça a donné ce que vous venez d'entendre.
C'est tout. T'as rien donné d'autre à la machine.
J'ai rien donné d'autre.
On peut-tu y entendre un extrait?
Oui,
en connaissance de cause.
Oui, moi aussi, j'ai pas ça.
Mais c'est pour faire pour Max.
Oh, ah, c'est là on la connaît. C'est là on la connaît, je pense.
Animateur de radio Robert à Montréal. Et derrière le micro, il y a une autre facette. Le gangsta qui règne sur la cité. Quand il débarque au studio, ça fout le feu. Les mics trompent devant.
Le quoi sur la cité? Le gangsta règne sur la cité, je crois.
Le gangsta règne sur la cité.
Je pense que tu fais écouter ça à ton gars. Là.
Il pense aime, que c'est vrai,
mais
ça...
Non, mais il aime le style de musique rap et tout. Il va capoter. Ça va devenir son idée.
Ben, c'est-tu quoi, Jean-Philippe? Tu veux l'envoyer? Je le vois ce soir.
Avec plaisir.
Il va penser que, justement, il y a un rappeur.
Tu sais,
il a fait une chanson sur son père. Là, je vais devenir crédible à ses yeux.
Que tu sois un de radio populaire, il s'en sac, mais qu'il y a une toune de rap sur son père, ça va prendre
toute l'estime. Jean-Philippe, t'as fait une autre expérience en utilisant l'indépendance du Québec.
Oui.
Ça, c'est... Oui.
OK. Pour si le PSPP est intéressé, ça va me faire plaisir de la lui licencier.
Si Paul Saint-Pierre Plamondon est à l'écoute, cette chanson-là doit rien coûter.
Non.
Mais tu m'as envoyé cette chanson-là.
J'aime ça parce que, oh mon Dieu, ça c'est bon, là.
Écoute, tu m'envoies ça par texto la semaine passée. Tu dis ma dernière composition musicale. J'écoute ça. Mmh. Sincèrement, je trouve ça un peu quétaine, je trouve ça un peu Starac 2004.
Exact. Disons ça comme on
ça.
Là-dedans.
Disons que ça a mal vieilli. C'est un hymne, c'est on imagine des lendemains qui chantent, etc. Moi, j'ose pas y dire, c'est un peu pas. Fait que je réponds à Jean-Philippe, tu fais de la musique en plus, et là, il me livre le pot aux roses. Ouais. Mais c'est, regarde, ça, c'est ce qu'on a maintenant, ouais. Jean-Philippe. Ça va être quoi dans 5 ans?
Ben, ça va être énorme. Regardons juste déjà, si on compare la génération d'images, la génération de textes qu'on a eu avec ChatGPT depuis un an et demi, ça a été énorme. C'est plus complexe, il y a plus de données dans une chanson, mais là, on y est arrivé. On est à peu près à l'étape, justement, où ChatGPT était il y a un an et demi, puis ça va être énorme. Là, c'est sûr que c'est encore très primitif. Suno aussi, faut dire, ça c'est la part qui me fascine. C'est une compagnie donc basée à Cambridge, au Massachusetts, 12 employés actuellement. Ils ont reçu des fonds de Microsoft qui ont investi là-dedans. Mais ce qu'il crée actuellement est plus intéressant que ce que Google a réussi à créer avec son propre algorithme de création musicale. Donc, c'est vraiment fort. C'est pas un produit parfait encore. On peut pas non plus utiliser ça pour des fins professionnelles parce qu'on s'est pas livré plusieurs trames. On peut pas faire du mixage et tout ça. Cela dit, tu sais, si j'aime pas les paroles, je peux aller les ajuster. Il y a plein de choses que je peux aller faire.
Ah, tu pourrais changer les paroles.
Ah oui, j'ai joué avec et tout ça. Mais je pense que c'est ce qu'on appelle en anglais un proof of concept. Ça va montrer où la technologie peut aller. Puis, pour tout ce qui est d'utilisation de musique générique, tu sais, en pub, l'attente au téléphone, tout ça, je pense que ça montre que là, l'IA va être capable de faire ça très facilement.
On parle souvent d'intelligence artificielle quand tu viens à l'émission, Jean-Philippe, et je me demandais, c'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu es terrifié par l'avènement de l'intelligence artificielle ou tu te dis, à la fin, ça va être bon?
Je dirais pas à la fin ça va être bon, mais c'est drôle parce que moi, tu sais, c'est l'artiste qui parle, j'ai l'impression que ça va créer une plus grande démarcation entre l'art générique, tu sais, l'illustration qu'on utilise pour illustrer une recette ou dans un guide d'instruction et le grand art. Dans le cas de la musique, je pense que ça va pas remplacer Bruce Springsteen demain matin. Puis d'ailleurs, tu sais, beaucoup d'analystes qui disent on va continuer d'acheter de la musique pour une série télé quand c'est une toune connue, on veut Ariane Moffat, on achète sa toune. Oui. Mais de la toune d'ambiance au téléphone, c'est sûr qu'on va prendre de l'IA. Fait que moi, je pense, tu sais, j'ai fait des tests, là. Moi, j'ai pris une IA, j'ai mis tous mes romans dedans. J'ai fait, essaye d'écrire du Jean-Philippe Barry-Guerrard. C'est de la merde qui sort. Moi, je pense que, tout ce qui est générique, il y a de la job qui va se perdre là. Tu sais, écrire de la rédaction publicitaire, tout ça, déjà, on le voit, ça se perd. De la composition de musique à l'image, parfois aussi pour des trucs où il y a moins de budget. Ça va pas remplacer Hans Zimmer. Mais pour les trucs qui ont moins de budget, je pense qu'on va y aller avec de l'IA. Mais les gens
pubs,
qui font de l'art unique.
La musique de pub, des trucs comme ça.
Exactement. C'est dommage, par contre, parce que ça va avoir un effet sur les artistes qui, parfois, dépendent de ce genre de travail-là pour faire, tu sais, leur grand art à la maison.
T'as des musiciens qui font de la musique de générique pour des publicités ou autre chose et qui, à côté de ça, vont subventionner leur art, puis des fois, ils vont devenir de grands artistes. Et c'est la même affaire dans plein de sphères.
Moi, je vais vous dire un nom que j'adore, Joseph Mielsen. Joseph Marchand, c'est un guitariste extraordinaire. Ouais. Il a joué pour plein de gens à Montréal. Il a un projet solo que pas grand monde connaît, moi, que je trouve très, très bon. Et ce gars-là, il fait énormément de musique de pub, puis il vit bien de ça. Puis on peut avoir accès à son album solo parce qu'il a fait de la pub. Fait qu'il va y avoir, j'ai l'impression, un fossé grandissant d'inégalités qui va se créer.
T'es un artiste, Jean-Philippe Barry-Guerrard, là. T'es romancier, dramaturge, chroniqueur, etc. Penses-tu qu'un jour, l'intelligence artificielle va générer de l'art, par exemple de la musique, qui va nous faire vibrer?
Je pense que ça serait niaiseux de dire non. Je pense que c'est intéressant parce que j'ai fait un petit téléphone tantôt à la Guilde des musiciens du Québec pour avoir leur opinion là-dessus. Puis j'ai parlé avec Éric Lefebvre qui est secrétaire trésorier qui était beaucoup sur le dossier de la négociation avec le gouvernement là-dessus. Puis il disait que ce qu'ils vont demander entre autres choses, c'est des certificats d'authenticité pour savoir si ce qu'on écoute, ce qu'on consomme est créé par un humain. Puis je pense que l'identité de la personne dans ce qu'on consomme, savoir que un roman a été écrit par quelqu'un qui a traversé une expérience, ça fait partie de notre appréciation. Donc, je pense que ça, c'est l'affaire, l'aspect biographique, identitaire d'une œuvre qu'on pourra jamais insuffler via l'IA. Mais déjà, depuis des années, on voit des artistes, par exemple en art contemporain, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, utiliser l'informatique ou l'intelligence artificielle pour, par exemple, travailler avec beaucoup de données, tout ça. Fait que je pense que le plus intéressant pour moi, ça va être quand les deux sont mélangés ensemble, quand c'est au service de. Mais je pense que, tu sais, il va se vendre des livres entièrement écrit par IA. Il n'y en a pas de question là-dessus. Il va peut-être voir des séries écrites par IA. Mais je pense que le discours autour de l'œuvre, ce que Catherine fait, ben, ça fait partie de l'œuvre maintenant. Puis je pense que l'entrevue avec l'IA va être pas mal moins intéressante.
C'est certain. C'est certain que l'intelligence artificielle est pas mal plus plate que moi.
Oui, surtout, ton entrevue avec l'IA va être plate.
Ce qui va être fascinant, chers camarades, c'est aussi de voir l'évolution. Puis je parle pas d'évolution sur 6 mois, 1 an, là. L'évolution sur des décennies, des attentes du public. Peut-être qu'un jour, le public va être bien content d'avoir des fausses personnes qui leur racontent des histoires, qui leur écrivent des chroniques dans le journal, qui font des pièces de théâtre, puis qui font des émissions de radio. Moi, j'en doute, mais je veux dire, si tu avais présenté le monde d'aujourd'hui avec les écrans à des gens il y a 30, 40 ans, ils t'auraient dit, ben non, c'est impossible. Mm-hmm. Mais c'est possible.
Et aussi, je dirais, tu sais, il y a un gros discours par rapport à l'IA qui tient dans une forme de conservatisme, la préservation de certains emplois au simple nom de la tradition. Puis malheureusement, je pense pas que personne qui s'ennuie de l'époque victorienne où il y avait quelqu'un qui était payé pour aller lancer des roches dans les fenêtres des gens pour qu'ils se réveillent à temps pour aller à l'usine.
C'était une chose, ça.
C'était une chose. Sauf que, une fois que le métier a disparu, personne s'ennuie de ça, tu sais. Sauf que malheureusement, c'est effectivement une période de transition qui est extrêmement violente pour les gens. Qui en souffre.
J'ai entendu une phrase vraiment intelligente sur l'intelligence artificielle. C'est pas l'intelligence artificielle qui va te voler ta job. C'est un kid de 25 ans qui a maîtrisé l'intelligence artificielle.
Cela dit, tu sais, quand ça peut créer beaucoup de merde, puis je pense qu'il faut se prémunir de ça parce qu'on va voir sur Spotify arriver beaucoup de musique créée par IA vraiment poche. Puis ça va être important d'avoir des gens, par exemple, à la radio qui nous disent, hey, cette affaire-là est sortie, puis c'est bien bon, écoutez donc ça.
OK, as-tu d'autres extraits avant qu'on se quitte?
J'en ai un petit dernier. Je sais pas si Maxime est prêt. Un truc qui va inspirer sûrement beaucoup de gens qui sont dans leur voiture, peut-être. On a-tu le temps?
Est-ce qu'on l'a, Max, la chanson?
OK, bon, c'est dommage. J'avais composé une tune sur, j'étais allé vers le trap, une tune sur le stationnement. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Mais vraiment, c'est gratuit d'ailleurs. Si vous voulez l'essayer à la maison, juste pour voir ce que ça fait, suno.ai. Puis il crée du contenu en français en plus.
S-U-N-O.
Ça fait quoi?
AI.
Tu vas te retrouver avec quoi à la fin de tout ça?
Écoute, tu fais une phrase et t'as une chanson de 2 minutes. Puis ça peut être ce que tu veux. Puis ça marche dans toutes les langues. C'est ça qui est incroyable.
Sur à peu près n'importe quel sujet.
Mais ouais, j'ai fait du trap, du country,
c'est encore du français de France.
Oui, c'est difficile d'avoir de l'accent québécois. Ouais.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
Donc, on en parlait hier, c'est l'histoire de Déborah Debraqueler. Elle est enseignante niveau 3e année à Saint-Hyacinthe, donc à l'école Saint-Thomas-d'Aquin, depuis 9 ans. Et elle travaille depuis 11 ans pour le centre de services scolaires Saint-Hyacinthe. Elle a demandé un congé sans solde pour participer à l'émission Survivor Québec. Ça lui a été refusé. Elle a décidé d'y aller quand même, et je le souligne, après avoir trouvé une remplaçante qui est une prof qualifiée, qui est une prof à la retraite, c'est elle qui l'a trouvée. Et donc, elle n'a pas laissé ses élèves en plan. Hier, quand j'en ai parlé, il y a plein de gens qui m'ont écrit d'abord, et c'était 50-50, je vous dirais. Il y a des gens qui disaient Le centre de services scolaires Saint-Hyacinthe a fait preuve d'une inflexibilité qui lui revient en face. Et il y a des gens qui disent, non, le centre de services scolaires Saint-Hyacinthe a bien fait de la congédier parce qu'elle a été congédiée, Déborah de Braqueller, pour s'être absentée. Donc, le motif du congédiement, c'est insubordination. Moi, je vous ai dit mon point de vue là-dessus. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'inflexibilité de la part du centre de services scolaires. Et c'est une inflexibilité, je vous dirais, qui est symptomatique du milieu scolaire. C'est mon point de vue. Vous le savez, je parle souvent d'école, je parle souvent des profs. J'écris là-dessus, je fais des entrevues à ce micro. Je trouve que il y a beaucoup de mauvaises relations entre les profs et les centres de services scolaires. Et ça, c'est pour moi, c'est un exemple. Elle n'a pas laissé ses élèves en plan, elle les a pas abandonnés, elle a trouvé une remplaçante elle-même qui ne sort pas du bassin des suppléants, suppléantes habituels. Je pense, à mon avis, qu'on aurait pu l'accommoder. Et que ce soit Survivor Québec ou autre, c'est pas ça le point. Il y a des profs, des fois, qui veulent faire des projets personnels. Et savez-vous quoi? À force de se faire des noms, ils finissent par sacrer leur camp puis aller faire pousser des tomates comme la serveuse de tomates. On va parler tout de suite avec Déborah de Braqueller, justement, l'ex-enseignante de troisième année à qui on parlait hier. Déborah, bonjour!
Bonjour, j'aime quand tu dis ex-enseignant.
Ben, ex ou pas ex, parce que là, il y a un développement. Je pense que le Centre de services scolaires Saint-Hyacinthe vous a fait une offre.
Mon syndicat m'a dit que je devais les appeler, donc j'ai appelé les ressources humaines, puis ils m'ont demandé si j'étais intéressée à retravailler pour eux. Donc, ils m'ont conseillé de faire une lettre de motivation et qu'ensuite, ils allaient regarder mon dossier et me répondre s'ils étaient intéressés à me réengager.
OK, vous réengagez à l'école Saint-Thomas-d'Aquin?
Ben, à me réengager à la commission scolaire, ben, au centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, puis sûrement pour me proposer de remplacer mon propre contrat, en fait.
OK, réexpliquez-moi comme si j'étais en troisième année, puis vous m'expliquiez la table de multiplication, là, parce que je suis pas sûr de comprendre. Ils vous sacent dehors, mais ils vous offrent de vous réembaucher.
C'est ça. Ils m'ont mis dehors, mais là, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils sont en pénurie, puis qu'il manque deux personnes, parce que les deux personnes que j'ai mises dans ma classe, ben, à un moment donné, elles arrêtent. Le mandat, c'était jusqu'au 28 mars. Moi, je revenais le 2 avril dans ma classe. Donc là, ils ont réussi à les étirer pendant une semaine de plus, mais là, je pense qu'ils vont se retrouver sans personne. Donc, c'est peut-être la solution qu'ils ont trouvée, c'est de me réengager pour pouvoir aller dans ma classe pour finir l'année, mais je vais finir l'année, mais au mois de septembre, je ne sais pas si j'aurai quelque chose. Okay. J'aurai sûrement quelque chose, mais pas à Saint-Thomas-d'Aquin. Je recommence à zéro. Je dois recommencer deux contrats, me faire évaluer, puis revenir sur la liste de priorités.
Décortiquons un peu, là. Votre sentiment, votre cœur penche de quel côté présentement?
C'est sûr que pour les élèves, je veux être là. Pour eux, juste à penser à leur réaction, de savoir que je vais revenir, je veux être là pour eux, puis je veux rester mes 3 mois avec eux et finir l'année avec eux. Mais mon sentiment un peu de me dire qu'ils m'ont sacré dehors puis qu'ils me récupèrent, c'est comme... Et j'hésite là aussi. C'est vraiment... Mais d'un côté, ils sont en manque de profs, puis passionnés par l'enseignement, c'est ça que j'aime. À choisir de recommencer dans un autre centre de service scolaire ou de recommencer dans le centre de service scolaire où j'étais, qui est chez moi, on va dire, à Saint-Hyacinthe. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est des questionnements. Je suis en questionnement depuis plusieurs jours, j'en dors pas, mais j'ai pas envie qu'on me fasse dire « Garde, t'as un métier, on te propose quelque chose, prends-le, ma fille, là. » C'est sûr que je vais prendre ce qu'on me propose, mais je continue à dire que la sanction était trop sévère.
Il y a une autre concurrente de Survivor Québec qui est prof au secondaire, au privé, au Collège de Montréal, à Montréal. Est-ce que j'ai compris que le Collège de Montréal vous a fait une offre d'emploi en apprenant que vous aviez été sacré dehors, Déborah?
Oui, en fait, j'ai appris qu'elle avait eu un congé pour briller. C'est un super beau congé où on te permet d'être toi-même. Et j'ai appris qu'il manquait de profs et que la direction était ouverte à m'accueillir.
C'est un peu loin de chez vous.
Oui, c'est un peu loin de chez moi. Saint-Hyacinthe-Montréal, c'est sûr que c'est de la route à faire.
OK, je vous l'ai dit, ça n'a pas fait l'unanimité, votre histoire. Il y a des gens qui vous soutiennent, il y a des gens qui disent, ben, elle a pris un risque, elle a juste à vivre avec les conséquences. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Patrick, je vais te dire en toute franchise, ça a toujours été comme ça dans le monde de l'enseignement. Dans le monde de l'enseignement, c'est toujours 50-50. Il y a des gens qui vont toujours être d'accord avec les enseignants et qui vont comprendre. Puis il y en a qui ne seront pas d'accord et puis qui vont toujours râler en disant, ben, ils ont 2 mois de vacances. Pourquoi elle n'est pas partie pendant ces 2 mois-là? Puis c'est sûr, mais c'est... J'ai toujours l'impression que l'enseignement, on a les pieds et poings liés avec le centre de service scolaire. On n'a pas grand choix de ce qu'on peut faire. Je me rends compte que j'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « j'ai été dans la même situation ». J'ai voulu aller faire 9 jours, je sais plus ce qu'elle m'a dit, faire un trip 9 jours, puis elle a eu les mêmes conséquences que moi, elle a failli être virée, ils ont fait un grief, puis ils sont partis, on va dire, à la guerre avec les syndicats, et elle m'a avoué que finalement, le centre de service scolaire s'est rendu compte que la sanction était trop sévère, qu'ils auraient dû y aller avec un avertissement, ensuite avec quelque chose, avant de une autre sanction avant de passer à carrément la congédier. Mais moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai été directement congédiée.
C'est une histoire fascinante. On va continuer à la suivre. Merci beaucoup, Déborah, et bonne réflexion à savoir si vous retournez enseigner.
Ah oui.
À la prochaine. OK, on parlait du centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe. Un centre de service scolaire, c'est composé d'un conseil d'administration. Et le conseil d'administration a voté pour le congédiement de Mme de Brakeler, 7-5. C'était à la fin du mois de mars. Un des membres du conseil d'administration s'appelle Joël Bélanger. Il est parent et il a participé à ce vote-là. M. Bélanger, bonjour.
Bonjour.
Donc, je pense, avant qu'on parle du vote au conseil d'administration du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, vous êtes familier avec Mme de Brakeler.
Ben oui, ben dans le fond, pour être sur le conseil d'administration, je suis d'abord élu président de mon conseil d'établissement de l'école Saint-Thomas, puis Mme de Brakeler a été l'enseignante de mon garçon l'année dernière, qui est en première année, puis ben il espère beaucoup l'avoir l'année prochaine pour la troisième. Mais au-delà de ça, Mme de Brakeler brille partout dans notre communauté pour sa présence. Elle laisse personne indifférent. C'est vraiment là un deuil... du village au grand complet, là, qui se passe présentement.
Monsieur Bélanger, donc, vous étiez au vote quand le conseil d'administration du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe a congédié Mme Brakeler. Comment ça s'est passé?
Ben, en fait, je peux pas en parler parce qu'il y a un huis clos. Fait que je peux pas aller dans le détail de ça. Mais tu sais, on l'a dit tantôt, là, c'est 50-50. Fait que tu sais, on le voit, c'était 7 pour le congédiement, 5 contre. Moi, ce que je peux seulement vous dire, parce que tu sais, il y a vraiment des informations qui sont publiques, là. Moi, je pense que ça n'aurait jamais dû venir en conseil d'administration. La demande qui a été faite par Mme de Brakeler n'a jamais été analysée. Moi, je m'implique au sein de ma communauté. Je suis président de mon CIE pour aider les enseignants, pour les défendre. Et moi, quand j'entends, quand je lis qu'on fait une demande le 15 novembre à 12h30 pour un congé sans solde et à 1h15, on dit « traité terminé, c'est impossible », moi, ça ne rentre pas. Ça rentre pas, puis on dit parce qu'il y a une pénurie de personnel. Moi, je m'implique, puis je demande des données. Je demande qu'est-ce que vous faites pour attirer le monde, qu'est-ce que vous faites pour les retenir. On me donne des projets, mais on n'a aucune donnée. Les données qu'on a eues dernièrement, c'est le taux d'absentéisme, et je me suis mis à questionner. C'est essentiellement, en grande partie, à la maison en maladie, à cause d'une surcharge reliée à la commission scolaire. Puis, ils mettent aucun programme en place pour la prévention des enseignants en lien avec le MRSST. Ça, pour moi, s'il avait mis des choses en place, puis il avait analysé la demande, bien, il l'aurait accepté, puis elle l'a démontré, elle a elle-même trouvé sa ressource.
C'est un peu absurde, par contre, que là, après l'avoir sacré dehors, le même centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe se retourne, puis il offre un job de la réembaucher, évidemment, au bas de l'échelle.
Ben en fait, l'idée c'est un bris de contrat, donc on la congédie, c'est un peu ça le débat, mais ils savent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc elle est invitée à repostuler, puis elle recommence en bas de l'échelle. Moi, je l'encourage à terminer l'année à Saint-Thomas-d'Aquin, mais au-delà de ça, le message qui est en arrière de ça, c'est on va vous museler si vous essayez de pas respecter vos règles, on va vous congédier. Il n'y a aucune souplesse, il n'y a aucune analyse, c'est by the book. L'analyse aurait dû être faite. Il y a d'autres articles dans la convention collective. Là. Il y a congé pour affaires relatives à l'éducation, où si on fait des séminaires, des comités pédagogiques, des congrès, des colloques, des journées d'information. Elle est entrée à l'éducation. Elle l'a dit là, dans son projet. Elle veut faire des conférences avec ça. Personne ne l'a contacté. Il n'y a personne qui lui a parlé.
Vous êtes au conseil d'administration, M. Bélanger. Vous n'êtes pas dans la direction. Non. La direction du centre de services scolaires Saint-Hyacinthe, là, est-ce qu'ils sont bons?
Je répondrai pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je m'étais impliqué pour changer les choses. Je vous avoue que là, j'étais très déçu. Le soir du vote, j'ai pensé démissionner de mon poste au CA. Puis je me disais, si je démissionne, ben je pourrais pas être là pour aider les enseignants que j'aime tant. C'est sûr que dans des situations comme ça, je peux pas dire que je les trouve très bons. Non.
Puis je prends pour acquis que vous avez voté contre le congédiement de Mme de Braquelaire.
J'avais quand même pris la peine de mettre mon nom au procès-verbal comme quoi que je m'étais que j'avais voté contre cette résolution-là, pardon.
Merci d'avoir été avec nous, M. Bélanger. Bonne
journée. Bonne
journée,
au revoir.
Joël Bélanger est au conseil d'administration du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Brièvement, en terminant, on va parler avec la mère d'enfants là qui sont dans la classe de Déborah de Braquelaire. Madame Emmanuelle Saint-Jean est au bout du fil. Madame Saint-Jean, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous avez un enfant dans la classe de Mme de Braquelaire, c'est ça?
Effectivement. Mon garçon de 8 ans est dans la classe et j'ai aussi mon plus grand qui a eu aussi la chance d'avoir Mme de Braquelaire en troisième année également.
Tu es une bonne prof?
Énormément. Mme Déborah, en fait, je pense qu'elle donne vraiment littéralement des étoiles dans les yeux des enfants. Elle est passionnée par l'éducation. Elle est dynamique, créative, elle motive les enfants, est investie. Mes enfants ont toujours hâte d'aller à l'école et vraiment, je parle au nom de tous les parents des enfants parce que je pense qu'ils ne sont pas assez représentés dans cette situation-là. C'est les enfants qui sont au cœur de l'éducation. On les a oubliés. Eux n'ont pas nécessairement pu dire leurs mots. Pas plus tard qu'aujourd'hui, mon enfant, justement, me disait qu'il comprenait pas pourquoi il avait même pas pu dire bye à Mme Déborah. Puis, il avait tellement hâte de l'entendre aussi par rapport à son expérience parce que pour lui, c'était un bel accomplissement. Puis, mon aîné, même en revenant de l'école tout à l'heure, m'a dit « Ben, maman, je comprends pas les parents, les adultes, les enseignants, ce qu'ils nous demandent, c'est de croire en nos rêves, de les réaliser, d'avoir confiance. » Et finalement, ben elle l'a fait, puis elle a été punie. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme image aux enfants? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour eux? Donc, oui, mon enfant est très, très triste, et c'est partagé, je pense, par les enfants, les amis de sa classe, mais, et même les autres enfants de Saint-Thomas. C'est un deuil, je pense que M. Bélanger l'a très bien nommé. Même mon troisième garçon qui a 5 ans, ben même lui a hâte d'avoir Mme Déborah comme enseignante. Donc, on veut la garder à Saint-Thomas également.
Le grand patron du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Bédard. Avez-vous un message pour lui?
En fait, déjà, j'avais envoyé aussi une lettre par rapport à ça. Ce que je dirais, je pense, c'est qu'il a manqué de flexibilité. Est-ce qu'on aurait pu justement discuter, avoir des échanges, une recherche de solutions? Le message que j'aurais, c'est qu'on peut trouver peut-être une autre sanction qui est beaucoup moins sévère pour que les enfants, non seulement les enfants cette année retrouvent leur enseignante, continuent leur potentiel, tout ce qu'ils ont eu comme cheminement, mais pour ceux qui vont venir, parce que je reviens à votre première question, Madame Déborah, justement, c'est une professeure qui va chercher le potentiel d'un enfant. Elle va vraiment soulever les forces, puis ça fait vraiment une différence. En tout cas, moi, je l'ai vu dans le passage de mes deux enfants. Je vois quand même le processus scolaire depuis la cinquième année là, pour les trois enfants. Puis cette année-là a été quand même déterminante pour chacun d'eux.
Madame Saint-Jean, merci pour votre témoignage. Bonne soirée.
Merci beaucoup à vous.
C'était Emmanuelle Saint-Jean. En terminant, je pense que Madame de Braquelaire a joué avec le feu. Ça, je le dis, quand on prend un risque dans la vie, il faut vivre avec les conséquences. Cependant, personnellement, des jours de suspension, OK. Parfait, je comprends. Une note au dossier, OK, je comprends. Un congédiement d'une prof qui est acclamée, qui est très appréciée, on a fait nos vérifications, ça, je comprends pas. Et à la fin, là, est-ce que c'est bon pour les enfants de la sacrée dehors comme ça? Je pose la question à Jean-Pierre Bédard, qui est le grand patron de la commission, on va dire la commission scolaire, là, parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis qu'on a changé l'appellation, Saint-Hyacinthe. C'est-tu une bonne décision pour les enfants de la classe de troisième année à Saint-Thomas-d'Aquin? C'est-tu une bonne décision? Notre équipe va l'appeler. On va y poser la question. Il va sans doute se cacher derrière le porte-parole, mais s'il y a une paire de couilles, il répondra, M. Bédard. C'est-tu bon pour les enfants de sacrer une prof dehors? Deuxième question. C'est-tu hypocrite ou c'est pas hypocrite d'essayer de la réembaucher à cette heure que tu vois que, oups, on va être dans marde maintenant qu'on n'a pas de prof pour finir l'année en troisième année à Saint-Thomas-d'Aquin.
Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
C'est 23.